Avengers to Infinity War and Beyond. Le box-office de 2018 a été dominé par les films de super-héros, mais celui qui trône au plus haut est sans doute Infinity War, le troisième chapitre de la série des films sur Avengers. Se basant librement sur Infinity Gauntlet de Jim Starlin et George Perez en 1991, ainsi qu'empruntant quelques éléments de la série Infinity de Jonathan Hickman, tous deux publiés aux éditions Marvel, le film est l'aboutissement du projet des studios, des studios Marvel de faire un méga-événement à la manière de ce qui se fait déjà depuis quelques décennies en comic book. Dedans, nous voyons le conflit entre les diverses forces de l'univers marvelien, Captain America, Guardians of the Galaxy, Black Widow, Iron Man, Thor, Scarlet Witch, Black Panther, Hulk, Spider-Man, Falcon, Doctor Strange, Vision et War Machine, contre Thanos et son plan de réduire la population universelle de 50%. Avengers Infinity War est l'accumulation de 19 films sur l'espace de 20 ans, dans lequel nous aurons vu les histoires classiques de Civil War, Winter Soldier, Rise of Ultron et, sur certains niveaux, World War Hulk. Et avec le succès immense de l'entreprise, le domaine de la recherche sur la culture populaire se retrouve avec un plus grand terrain de jeu que jamais. Comment concevoir cette immense crossover, ou même transmédia, question à laquelle nous allons revenir plus tard, à l'ère de l'adaptation comic bookienne? Aujourd'hui, pour discuter de ça, on a notre collaborateur habituel, Boris.
Bonjour.
Comment ça va, Boris?
Ça va? Je suis content d'être là pour parler de Marvel.
L'éditeur en chef de la revue Panorama Cinéma, Mathieu Goyette.
Bonjour.
Et la co-animatrice toujours pertinente, Megan Bédard.
Allô!
Donc, il y a plusieurs questions. Je pense qu'on a, on a fait preuve de beaucoup de retenue dans le dernier mois et demi. Je pense que globalement aussi, c'est très intéressant. Ma copine, elle a vu le film lundi. Et quand elle est rentrée, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que c'était correct de voir le film suite à tous les spoilers, suite au fait que tu savais déjà qu'est-ce qui se passait? Puis elle m'a répondu qu'elle n'en avait pas vu. Ou du moins, celles qu'elle avait vues, elle ne les avait pas interprétées correctement. Donc, au final, l'expérience était totalement intacte pour elle. Puis c'est là où je me suis fait la réflexion de comme, félicitations, fandom, on est rendu assez docile ou domestiqué pour ne plus faire ce truc de mauvais goût que de gâcher les films.
Bon, surtout, c'est encore drôle.
C'est de la docilité ou c'est du respect pour les gens qui l'ont pas vu?
Oui, ben, domesticité, plutôt. Ben, docilité. À la limite, j'ajoutais le mot docilité parce que la campagne publicitaire autour du film était Thanos demands your silence. T'sais, on demandait aux gens, on imposait essentiellement par une force cosmique autre, de se la fermer quand on venait de parler du film. Fait que la docilité venait du fait qu'au
final... Ah, pour les critiques, tu veux dire?
Ah, même pour les humains.
Non, en général.
Les humains.
mais je m'excuse, moi, j'ai vraiment pas ressenti ça. Là. C'est peut-être ma première constatation sur Internet, mais moi, comme je suis content d'avoir vu 4 jours après la sortie parce que j'ai vu des spoilers partout. J'ai pas essayé de les éviter non plus vu que j'avais vu le film, mais ça, je pense que ça dépend aussi de...
Ça dépend énormément de ce qu'on suit sur Facebook, de qui on parle,
ouais, okay,
ce qu'on lit. Ça dépend de beaucoup de choses. Puis en même temps, je crois que Infinity War, c'est pas comme si c'était un film où il y avait, d'une certaine façon, où il y avait tant de choses que ça à spoiler. C'est pas comme The Last Jedi, où là, il y a vraiment, tu veux dire, il y avait des trucs, là, la scène dans The Last Jedi où Rey se met à se battre aux côtés de Kylo. Ça, il y a quelque chose là-dedans qui est profondément imprévisible. Alors que tout ce qui était dans Infinity War, au final, était complètement prédit par la bande-annonce, puis c'est accompli comme une espèce de prophétie, puis on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est ce qui fait en partie que le film n'est pas si surprenant que ça non plus.
D'ailleurs, il y a comme une espèce de contradiction dans le hype, parce que comme de fait, tout le monde disait que ça allait être un game changer, puis on demandait de ne pas faire de spoiler, alors qu'effectivement, il n'y a rien à spoiler, et même ces morts qu'on nous prédisait, c'est pas des vrais morts. Fait que finalement, cette espèce de silence imposé, puis de, c'est un peu une ruse, j'ai l'impression. Mmh. Involontaire ou volontaire?
Oui, complètement, c'est volontaire. C'est pour créer une impression de secret autour du film, je crois.
Ouais, alors que finalement, tu sais, il n'y avait pas de punch, il n'y avait pas de gros revirement.
Ben, moi, j'ai trouvé que il fallait ne pas savoir, surtout considérant la multiplicité de théories de fans qui sont sorties avant l'apparition du film. On savait qu'il allait vraiment avoir beaucoup de morts, on ne savait pas qui. Puis à peu près tous les personnages dont j'avais entendu parler qui allaient mourir sont vivants. Donc pour moi, ça a été une surprise, nécessairement, que... Je voulais me préserver un peu de ces spoilers-là, puis ça a eu un impact dans la manière dont j'ai vu le film, parce que c'est pas le outcome que j'attendais nécessairement. Fait que c'est sûr que les compagnies jouent avec cette impression de secret-là, puis de mystère pour faire du hype, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans la spectature qui change quand on joue aussi avec ces secrets-là ou ces théories-là, puis on essaie de faire circuler des choses en ligne ou pour faire de la surprise. Mm-hmm. C'est artificiel, mais en même temps, moi, je trouve que ça fonctionne pareil. Là.
Oui, oui, parce que là, il y a comme... C'est là où c'était intéressant, parce que c'est vrai qu'on prévoyait une hécatombe, mais c'est une hécatombe à plusieurs niveaux par rapport à ce film-là. T'sais, je veux dire, de dire que...
C'est un kidnapping plus qu'une hécatombe. Là.
Non, mais c'est ça, au final. Ouais. Mais de dire que Black Panther est mort, puis de dire que Gamora est mort, ça ne veut pas dire la même chose.
Non, effectivement.
C'est ça qui est très intéressant dans tout ce jeu-là. C'est que tu vois, par exemple, Gamora, moi, j'en ai pas entendu parler. Outre, fondamentalement, les seuls spoilers que j'ai vus, c'est les jokes de petits sachets de poudre, là. Uh-huh. À part de ça, il y a même eu une initiative de contre-spoiling en utilisant des phrases du film, telle la phrase de Doctor Strange, qui a vu le film 14 milliards de fois, mais qui a réussi à pas le spoiler, tu sais. De mettre une scène du film pour nous expliquer de pas le spoiler, c'est comme une récupération très habile. Uh-huh. Mais en même temps, ce que tu disais, Mathieu, par rapport au secret, c'est que j'ai l'impression que le plus que tu insistes sur le fait qu'il y a un secret, le plus que les gens sont mis au défi de le dire, tu sais. Là, on retourne à comme la personne qui sort d'Empire Strikes Back en criant, genre, aïe, aïe, c'était son père devant la file d'attente. Tu sais, c'est comme, je pense qu'ils ont bien ou ils ont habilement joué du, il n'y en a pas tant de secrets que ça, puis ça va faire en sorte que les gens ne seront pas encouragés à écrire des spoiler heavy ou de. T'sais, parce qu'au final, on s'est tout un peu dosé par rapport à ça. Chose qu'on faisait peut-être moins avant ou que c'était peut-être plus juvénile de comme sortir. Là.
En même temps, c'est dur de spoiler Infinity War à moins d'avoir comme une liste. Là. C'est ça. C'est pas comme tu dis, de la Jedi ou même Force Awakens où il y a comme un personnage important qui meurt. Ben là, c'est facile de juste dire Han Solo meurt dans Force Awakens.
Dumbledore.
Mais c'est ou quand Dumbledore.
Même... Mais exact, mais que ce soit dans Star Wars ou dans Harry Potter, c'est deux bons exemples pour parler de ça. Les spoilers sont liés à des décisions que prennent les personnages, à des gestes, à des dilemmes moraux. Mm. Où là, on a vraiment en fait l'impression d'un personnage qui se tient devant un chemin puis qui doit choisir d'aller à gauche ou à droite. Alors que dans Infinity War, si on prend le dernier spoiler à spoiler, le claquement de doigts avec tous les gens qui disparaissent, ce truc-là se passe d'une façon qui est instantanée puis qui est sans... je dirais, réelle douleur. Là.
Sauf pour Spider-Man.
Ça, c'est vachement émouvant. Puis là, on reconnaît vraiment tout le talent d'acteur de Harlan puis Robert Downey Jr. dans cette scène-là. Mais c'est très, très, très expéditif. Là. Comme geste, comme final, c'est quelque chose qui est annoncé dès la première bande-annonce qui a parlé du film. C'est quelque chose qui ouvre le story arc dont est adapté le film. C'est ce qui se passe dans les deux, trois premières planches. Là,
et le film se termine là-dessus. Donc, on revient justement au statut d'Infinity War qui est dans une continuité narrative. Mm-hmm. Donc, c'est dur justement d'avoir des points finaux ou des fins quand on sait de toute façon qu'ils vont tous revenir et que ça va se poursuivre.
C'est ça, tu sais, qu'on sait que Spider-Man 2 sort l'été prochain. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresserait plus de savoir, c'est, mettons, est-ce que les gamins de 8 ans qui ont vu le film, est-ce qu'eux, tu sais, ils ont vraiment été atteints par cette finale-là? Est-ce que ça a marché sur eux ou est-ce que, genre, déjà, eux savaient que Black Panther 2 s'en venait dans un an et demi. Mm-hmm. Jusqu'à quel point, dans le fond, le marketing des films puis toute l'espèce de grosse structure médiatique qui est absolument immense hein, autour de ces films-là, jusqu'à quel point ça n'est pas en train de faire compétition aux films eux-mêmes?
Ah, moi, j'ai vraiment cette impression.
Ben oui, quand je parle de grosses structures médiatiques immenses, le meilleur exemple pour l'incarner, c'est le fait que maintenant, on est dans un monde où, je ne sais pas, là, le prochain Avengers va sortir ou le prochain Captain Marvel va sortir. Puis là, le moindre moment que dans le backstore d'un Toys R Us, un set de Lego qui arrive, puis qu'un employé prend une photo, ça arrive sur Internet. Là, il y a comme 150 sites qui vont faire une histoire dans cette journée-là. Moi, je serais vraiment curieux de savoir, à partir d'un cliché comme ça, d'une bourde de marketing comme ça, tout l'argent qui est généré.
Ah, mais il y a ça, puis même les sets de Lego d'Infinity War, on pensait qu'elle allait spoiler des choses, mais les personnages ne sont jamais ensemble dans le film, fait que aussi, il y a un jeu là-dessus.
Il y a un jeu aussi là-dessus, tu sais, puis qui nous dit bien que les gens qui prennent ces décisions-là au niveau du marketing chez Marvel placent bien leurs pions, hein, pour faire en sorte que les choses ne soient pas spoilées, mais en même temps, créer un univers où genre... avec une espèce de fausse chasse au trésor là, avec les fans où on est comme on est obnubilé par des trucs alors qu'il me semble que c'est un peu comme les Star Wars, j'ai envie de dire, tu sais, c'était quand même le fun dans le temps d'avoir à attendre 3 ans entre chaque Star Wars, t'avais vraiment le temps d'imaginer ce qui se passait, puis là maintenant, est-ce que Solo a échoué à cause de ça? Peut-être, ouais,
les chansons sont bonnes.
Effectivement. Je pense qu'il faut laisser aux fans le temps, tu sais, de s'imaginer leur propre monde, le temps, par exemple, de produire de la fanfiction, de créer des mondes, puis de
juste un bémol là-dessus, mais je dirais qu'avec Internet, ça va vraiment plus vite.
Oui.
Fait que je pense qu'ils n'ont pas le luxe nécessairement d'attendre 3 ans. Puis peut-être que Solo est arrivé trop vite, peut-être qu'il aurait mieux marché à Noël, par exemple, mais je pense pas qu'il aurait bien marché dans 2 ans non plus.
Non, mais c'est pas un super bon film en partant.
Ben, c'est pas une prémisse intéressante à la base, comme la jeunesse d'un personnage qui est charmant parce qu'on connaît pas son passé, tu sais, c'est comme... C'est un peu contre-productif. C'est comme, non, je veux pas savoir de quoi avait l'air Dark Vador quand il était un whiny teenager. Non, je veux pas savoir ça.
Mais au final, à l'inverse, on veut... T'sais, c'est drôle, il y a comme un... Bon, on parle beaucoup... C'est via Star Wars qu'on parle beaucoup de cette fatigue-là. Les médias attendaient déjà... Je pense que j'ai l'impression que la douille de la fatigue super-héroïque est chargée dans la fusil de plusieurs instances médiatiques. Là. Ils ont juste hâte de pouvoir tirer sa gâchette, de dire « Oh, enfin, tout le monde est tanné! » Puis c'est juste pour pouvoir avoir des clics ou des trucs comme ça. Avengers Infinity War a totalement démoli l'arme et la main qui la tirait. On a vu que les gens n'étaient pas fatigués, n'étaient pas tannés. Mais bien au contraire, j'ai l'impression qu'en mettant en scène la fin de leur propre univers, ils exauçaient quelque chose. T'sais, on a tout un peu ce sentiment-là, par exemple, que Deadpool a été un immense succès parce qu'il offrait un contre-exemple. Parce qu'enfin, c'était un film de super-héros qui était vulgaire, qui didn't give a fuck, par exemple. Mais que là, Avengers Infinity War n'a pas subi de fatigue parce que c'est une quasi-conclusion.
Et pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de fatiguer peut-être pas la masse populaire, mais au moins la masse critique, parce qu'il y a quand même eu une fatigue ressentie dans certaines réceptions critiques, peut-être pas la critique générale, mais moi, en tout cas, le fait, justement... T'sais, tout ça, c'est un peu... Cette fin-là, c'est pas une vraie fin, puis c'est un peu vide. Puis justement, genre, le moment le plus émotif du film avec Spider-Man, moi, je l'ai vraiment pas ressenti. Parce que tout ça, c'est vide, c'est faux. C'est faux sa mort, c'est faux sa supplication. Puis j'ai vu Black Panther mourir, puis là, j'ai vu Spider-Man supplier Iron Man, puis j'ai comme... Pff, tu reviens dans un an, give me a break. Puis c'est ça qui m'a frustré, c'est ma grande frustration du film. Puis, en tout cas, j'étais un peu coupé, là, mais...
Je pense qu'il y a quelque chose avec ça de... Il faut repenser la spectateur des films du Marvel Cinematic Universe dans un autre paradigme que l'écoute du cinéma traditionnel, parce que c'est une série. Parce que c'est comme une grosse télésérie sur grand écran qui continue encore et encore. Et quand on écoute des téléséries ou même de la télé-novella, on pourrait quasiment rapprocher ça de ça. On sait que les personnages vont mourir, mais on sait qu'ils vont revenir de toute façon et ça ne nous empêche pas d'être émus et de s'impliquer émotionnellement là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, j'ai été affectée par ces faits-là, mais je n'écoute pas ces films-là comme « Ah, de toute façon, ils vont revenir. » Je suis curieuse quand même encore de savoir qu'est-ce que Captain Marvel va faire avec ça. Fait que je pense qu'il y a, une façon... Le MCU nous force à repenser notre manière d'écouter du cinéma.
Sauf qu'en même temps, j'ai relu ce matin une excellente pièce de Hulk...
Film Critic Hulk,
qui avait écrit... non, c'est pas Hulk, là,
faut mais... Faut que tu l'expliques, c'est mais, quoi, ouais. Malheureusement, parce que pas tout le monde le sait. C'est quoi Film Critic Hulk, Boris?
Ben, c'est un gars qui écrit des grandes pièces d'analyse de cinéma, qui conçoit la critique un peu comme pas seulement la critique d'un film, mais qui essaye de voir the big picture, puis dans quoi est-ce que tout ça s'imbrique. Puis il a écrit une très, très longue pièce qui s'appelle, je pense, Infinity War and the Endless, in the Marvel Endless Endgame. Mm. Et justement, où à un moment donné, il parle de cette comparaison-là en disant que oui, mais dans une série télé, puis une saison télé va être construit de manière à ce que, tu sais, c'est un peu prévu. C'est un peu la progression narrative fait en sorte que tout cela, c'est des pièces imbriquées, puis que la sérialité est prévue d'avance, que on sait où on s'en va dans peut-être 5 épisodes ou 6 épisodes, alors que là, les éléments sériels, c'est juste des teases, c'est des cliffhangers, c'est des... On dit beaucoup que... La grande force d'Infinity War, c'est Thanos, puis que ça a focusé sur Thanos. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est peut-être une force, mais ça a aussi fait qu'on perd tout le reste. Puis justement, si tu fais une série de films, dont chaque film serait un épisode qui construit une grande narrative, c'est quoi cette narrative-là? Puis pourquoi Thanos il n'a pas été introduit avant? Je veux dire, Thanos, on ne sait rien de lui avant Infinity War. On sait juste qu'il flotte dans une chaise. Puis que c'est le père de Gamora, puis c'est tout. Puis t'as eu 19 scènes de post-générique pour l'introduire, pour faire de quoi. Sauf qu'il n'y a pas de grand plan ici. Le grand plan, c'est de faire un événement. Mais il y a différents scénaristes, il y a différents réalisateurs, puis finalement... puis il parle justement aussi, Film Critic Hulk parle aussi du fait que d'un film à l'autre, on va complètement changer le sens puis le but d'une histoire comme... Dans le film précédent de Marvel, ben deux films avant, dans Thor Ragnarok, le grand message du film, c'est que Asgard, c'est pas une planète, c'est un peuple. Puis c'est tout le message du film. Puis là, au début d'Infinity War, on balaye ça complètement, puis on les tue pour un effet dramatique. Puis c'est un peu la faiblesse de cette comparaison-là, parce que finalement... Une saison va se maintenir, puis tu vas avoir un épisode qui va raconter quelque chose qui est à l'intérieur, puis qui peut ou pas être self-contained. Mais après ça, la saison va raconter une histoire globale. Puis c'est quoi l'histoire globale du MCU? C'est quoi?
Ben, c'est vraiment, c'est des Nick Guffin.
Ouais. C'est ça. C'est de la collection.
Ouais.
Puis même dans les comics, dans les story arcs, tu sais, oui, des fois, on parle du problème qu'il y a tous ces événements-là qui s'enchaînent puis qui sont vite, mais dans un story arc de 6 numéros, il va quand même y avoir une histoire, souvent.
Oui, absolument.
Alors que là, je veux dire, c'est pas un numéro de comic, c'est pas un épisode, c'est un film, puis la suite, tu vas attendre 5 mois avant d'avoir une suite, ou peut-être, des fois, il n'y aura même pas de suite parce que le prochain film ne va pas parler de ça, il va parler d'autre chose. Fait que finalement, c'est un peu une poule sans tête.
Puis... Ouais, la construction est assez problématique, mais ça ressemble aussi beaucoup à ce qui se fait déjà en comic book, là, pour les gens qui suivent. Tu sais, l'événement d'été est toujours un peu, qu'est-ce qu'on appelle foreshadow, de toujours des petits éléments de « faites attention, il y a quelque chose qui va arriver avec... » Asgard dans le cas de Siege.
Tout à fait, mais ces événements d'été-là respectent quand même plus ce que les créateurs ont fait, les auteurs ont fait individuellement durant l'année.
Ouais.
Par exemple, si on regarde le MCU, puis on pense... Par exemple, un de mes films préférés du MCU, c'est Iron Man 3, que je trouve très touchant à plein de niveaux. Puis dans ce film-là, Shane Black essaie vraiment de faire quelque chose avec Robert Downey Jr.
Ouais.
Puis elle essaie d'amener le personnage dans une espèce de crise de foi, puis de faire des choses avec ça. Puis ces éléments-là, je veux dire, ils sont tellement récupérés en surface dans les films suivants, de la même manière dont, je veux dire, tout l'espèce de chemin de croix qu'a fait Captain America, cette espèce de man out of the past qui est en déphasage complet avec sa réalité. Il me semble que là, plus on s'approchait justement de ces années trumpiennes, plus le personnage devrait devenir de plus en plus intéressant. T'sais. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage que là, maintenant, on n'aurait plus besoin de lui faire jouer des espèces de thrillers d'espionnage des années 70. 70 pour être pertinent. Il peut carrément être dans le réel puis faire sa job de Captain America puis être pertinent, tu sais. Puis, donc, on est vraiment... Ou même exemple avec Thor Ragnarok puis avec ce peuple qui est complètement décimé là, au début d'Infinity Wars. Est-ce que tu rappelais, Boris? Mm-hmm. Tu as totalement raison.
À moitié.
Oui, ah, oui, oui, décimé à moitié. Mais, mais tu sais, en même temps...
Non, non, je veux dire, il y a la moitié qui s'est sauvée avant que Thanos arrive.
C'est ça, oui, oui, complètement.
Fait qu'il reste le corps.
Oui.
Mais il y a d'autres exemples, comme
quand il pète... C'est peu de considération, tu sais, pour un peuple en exil, tu sais. Qui est dans le film d'avant, c'est ça, tu sais, c'est comme laisser les Juifs en exil, puis là, ben, dans le film d'après, ben, genre, tu sais, ils sont décimés, puis on les voit même pas, en fait.
Non, c'est ça.
Ils sont tués dans leur champ, ou peut-être dans un tie-in comic book qui est sorti, je sais pas. Fait que, tu sais, il y a comme peu de considération pour l'attachement, tu sais, qu'on veut porter envers ces personnages, puis je pense que, en fait, je veux dire, à force, hein, d'aussi, je veux dire, d'avoir des volontés comme ça, là, comme par exemple Peter Quill, ce qui se passe avec lui, je veux dire, ça n'a aucune cohérence. Je veux dire, c'est un personnage qui est supposé grandir, qui est supposé apprendre de ses erreurs, il est allé y retrouver son père, il a dealé avec lui. En principe, il est supposé avoir grandi. Puis au final, qu'on le retrouve dans Infinity War, c'est un personnage qui est encore plus...
Il est plus bébé que
dans le premier Guardians.
C'est vrai.
Tu sais, la connerie qu'il fait dans Infinity War... C'est de la mauvaise écriture, là. Il y a rien qui justifie ça.
Ben, je ne suis pas d'accord, mais continue à y aller.
Non, mais... C'est...
En fait, le seul... Je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, mais le fait que c'est le plan que Doctor Strange permet fait en sorte que cette connerie
non,
est nécessaire.
Non, mais en fait, j'avais pas l'impression qu'il y avait... qu'il était plus bébé. Au contraire, c'est que quand on le voit dans le premier Guardians of the Galaxy, il est incapable d'attachement émotionnel. Il est incapable, justement, d'empathie, de compassion. Et là, sa réaction émotionnelle, ça témoigne de ça. Ça témoigne de sa maturité, du fait que maintenant, il s'est attaché à quelqu'un qui pouvait juste tasser du revers de la main dans le premier film, puis qui a appris aussi à... C'est les messages de Guardians of the Galaxy, c'est l'amitié, c'est la solidarité, c'est l'équipe des espèces de hors-la-loi, mais qui se tiennent ensemble. Fait que moi, je pense que c'est pas du tout incohérent comme réaction.
T'as vraiment raison. Ouais. Je veux dire, au niveau de l'écriture, je suis sûr que c'est la logique qui pousse le personnage à faire ça. T'as vraiment raison là-dessus. En même temps, moi, ce qui me dérange, en tout cas, qui me fait méfier de tout ça, c'est que il me semble que c'est très monolithique comme manière de concevoir des personnages, ou en tout cas des individus. C'est que, tu sais, comme, oui, fine, il a appris à s'attacher à Gamora, mais de là à mettre en péril la moitié de toutes les âmes de l'univers, le pas est quand même... Je veux dire,
en même temps, on peut en pointer beaucoup les incohérences dans Infinity War, dans ce sens-là. Là, pourquoi personne décide de tuer Thanos alors qu'il y a à peu près 50 occasions de le faire?
Oui, non, mais
c'est ça, là, comme si on s'attache aux détails comme ça.
Ouais, mais c'est des détails importants.
En même temps, ce détail-là, tu sais, en particulier, il revient à ce que je disais tantôt, tu sais, c'est-à-dire qu'on a perdu un peu la valeur du geste, tu sais, puis dans des séries comme par exemple dans Star Wars, dans Harry Potter, il y a encore ces moments-là où les personnages prennent des décisions, puis là, c'est comme si tout ce qu'on avait travaillé là au niveau de la sérialité depuis des années, comme tu sais, payoff à ce moment-là, on était comme ok, ça fait tellement de sens qu'il fasse ça parce qu'il y a tel grudge, whatever. Puis là, le payoff de ce moment-là, tu sais,
mais j'avoue que c'est pas un dilemme moral rendu là. C'est un peu comme un pot de qui tombe sur la tête. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis dans ce sens-là. C'est que l'attachement émotionnel à cette décision-là, qui n'en est pas une, finalement, c'est un peu... Tu sais, il aurait fallu que ça échoue peut-être d'une autre manière, ou je sais pas.
Ben encore, ça, c'est de traiter le film comme une finalité. Mm-hmm. Mais ça ne l'est pas. C'est ça, moi, à mon avis, tout ce qui se passe avec Peter Quill, l'évolution ne se fera pas dans ce film-là. Il faut qu'il y ait, c'est comme le schéma de Rocky, là, il va falloir qu'il fasse une dernière chute avant de remonter glorieusement. Mm-hmm. Sa dernière chute, c'est la connerie qu'il a faite devant Thanos. Puis il va probablement être très repentant, donc glorieux dans le prochain. T'sais, il y a comme... C'est là où je trouve qu'il y a un leurre de finalité qui devient vraiment intéressant, puis qui, un peu comme pour reprendre ce que je disais tantôt, évite le piège de la fatigue, parce que c'est aussi un film où le mal gagne. Donc, tu te retrouves à avoir comme l'antithèse du film de super-héros, tout en disant, ben oui, mais regarde, on se revoit dans 2 ans.
Ah non.
Un an.
Mais c'est aussi que le film, puis moi, je me suis un peu obstiné avec un ami qui m'a dit pour défendre le film, ouais, mais c'est la moitié d'un grand film. Puis je suis comme, ouais, mais ça, c'est comme le meilleur argument que tu aurais pu me donner. Parce que justement, cette idée que c'est un film qui brise un peu le moule parce que le méchant gagne, mais c'est pas vrai. Puis le méchant, il gagne pas à la fin du film. Il gagne au milieu du film. Puis see you next. Parce que genre...
Ah oh, oui, OK, tu parles de... ouais, en traitant Infinity War comme Infinity War. Non, c'est 3 ça. 3.3 et 3.5.
Non, mais... il y a quelque chose, il y a quelque chose de comme... Peu importe de ce qu'est-ce que le film aurait dû ou n'aurait pas dû être, ou si c'est un bon ou un mauvais film, si on le prend pour ce que c'est et pour ce que le MCU essaie de faire, parce que c'est une tentative, c'est les premiers qui essaient de faire quelque chose d'aussi grande envergure, une réalité comme relativement complexe, mais qui est adaptée aussi du comic book, puis qui essaie un peu de réitérer ses mécanismes. Puis oui, ils échouent à plusieurs niveaux, puis c'est difficile de faire du cinéma de profondeur en aussi peu de temps, puis sur une si grosse échelle. Fait que moi, je me demande qu'est-ce que le MCU essaie de faire avec ce film-là. Est-ce qu'il réussit ou non? Ben ça, c'est à chacun d'entre vous d'en décider, mais... J'étais curieuse parce que je connais pas du tout la bande dessinée puis comment ça, ces événements-là se déploient en BD. Puis est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre le MCU et les événements de comic book qui sont analogues?
Ben complètement. Oui, ben complètement. T'sais, c'est des adaptations qui reprennent des histoires qui sont là depuis des décennies, en fait. Là. Hier, je relisais pour l'émission, je pense que c'est le 7e ou 8e annual d'Avengers qui date du milieu des années 70. C'est dessiné par Jim Starlin, qui est le créateur de Thanos. Puis c'est le premier... C'est pas un event au sens où on l'entend aujourd'hui, dans mesure où est-ce qu'il y a pas 5-6 séries individuelles qui stressent, qui mènent jusqu'à ça. C'est vraiment plutôt... C'est assez simple, mais c'est la même mécanique. Thanos s'en vient, Warlock l'a vu, il arrive sur Terre, il dit aux Avengers... Mad Titan is coming, puis là, ils doivent se rassembler, lui faire face. Thanos n'a pas encore son gauntlet à l'époque, il est plutôt une espèce de gigantesque Soulstone d'où il tire son pouvoir, mais il fait la même chose avec, là. C'est la même histoire. Puis concrètement, ouais, chaque fois que Thanos arrive, c'est un peu sur le même modèle, tu sais. Il arrive toujours comme une espèce de messie qui représente la mort. Puis en ça, c'est peut-être quelque chose dont on pourrait parler, là, au niveau de l'adaptation. Thanos, dans les comic books, s'il fait ce qu'il fait, c'est pour plaire à la mort. Hein. Thanos, pour Thanatos, il veut donc plaire à une faucheuse qui est une belle femme dans un genre de cape qui parle jamais. Puis lui, il veut la charmer, puis la charmer donc en tuant le plus de gens possible. Ce qui fait un personnage, ce qui en fait un personnage tragique, hein. C'est-à-dire c'est un personnage d'amoureux, d'amant épleuré, qui fait tout pour plaire à quelqu'un qui daigne même pas lui répondre. Fait que ça fait de lui quand même, c'est ça, un beau personnage tragique, alors que donc au cinéma, c'est une espèce de despote hyper calculateur, puis qui travaille plutôt à l'inverse, à se retirer de ses sentiments. C'est ce qu'il fait Antoine Gamora. Donc, en quelque sorte, au niveau de la construction du personnage, on est face à quelque chose qui est complètement à l'envers de la bande dessinée.
Mais en fait, ils ont intégré un questionnement qui est quand même assez contemporain, c'est-à-dire sur l'environnement.
Complètement.
Environnementalisme.
Oui, complètement. Puis tu sais, c'est vraiment pas... tout à fait raison. Puis je dis vraiment pas ça pour commencer à dire, genre, que par exemple, dans l'adaptation, que l'original était meilleur ou des discours comme ça. C'est vraiment plutôt que... Il me semble que le problème qu'on a avec ce Thanos un peu plus robotique, là, dans sa manière de calculer les choses, c'est qu'on perd justement non seulement la dimension tragique du personnage, mais aussi la dimension humaine, puis ce qui en faisait un personnage qui était comme un peu sans limite, tu sais, qui est insatiable. Alors que là, c'est un peu... je sais pas, il est un petit peu... Il est intéressant, Thanos, que joue Josh Brolin, mais il est un peu à l'image du MCU aussi. C'est un personnage qui est calculé qui est en quelque sorte l'incarnation même du capitalisme au cinéma. C'est-à-dire qu'il est comme, ah ben là, on a trop d'offres, hein, parce que là, on a trop de personnages, fait que là, il faut couper l'offre. Il faut créer plus de demandes. C'est un peu, je veux dire, c'est presque, j'ai envie de dire, puis je veux pas paraître cynique en disant ça, mais c'est presque la seule chose que je vois en regardant Infinity War. Dans la mesure où est-ce que c'est un film qui est tellement comme gros dans ses mouvements puis dans ce qu'il essaie de construire, que tu te dis, OK, ben, tu sais, c'est un empire qui est rendu un peu au bout de son truc financier. Ils ont eu des super beaucoup d'éclats. Puis là, ils se sont rendus compte que comme dans n'importe quel produit culturel ou peu importe ce qu'on produit, que ce soit culturel ou industriel, ben, on est quand il y en a trop, les gens s'écœurent. Puis c'est ce que Thanos incarne.
Wow!
Mais en même temps, c'est un peu veg qui incarne ça. Je veux dire, c'est beaucoup moins intéressant. Mais,
moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse, l'intériorisation de sa propre critique.
C'est hyper cynique. C'est comme au début de Jurassic World, quand le méchant chinois, il dit, le scientifique, le généticien, il dit genre, ah, les gens maintenant, ils sont plus impressionnés par les vieux dinosaures. Il faut leur donner des gros dinosaures avec des grosses dents, puis des dinosaures un peu punk parce qu'ils sont cons, puis, tu sais, puis ils vont le gober quand même. C'est super cynique, Jurassic World, à cet égard.
Ben, surtout qu'il blâme le public pour ça après en disant, mais c'est vous qui avez demandé ça, pourquoi vous vous plaignez?
Mais c'est ça, exactement.
Ça m'avait vraiment fâché.
Enfin, oui. Enfin, c'est ça. Ouais.
Mais effectivement, c'est pas parce qu'il y a un discours métanarratif que c'est intelligent puis que c'est pas cynique.
Non, c'est pas ça. Moi, tout ce que vous dites, je le reçois en termes d'analyse. Là. C'est vraiment porn. Ça me fait pas plus ou moins apprécier l'œuvre. C'est vraiment comme, qu'est-ce que je dis en introduction, le terrain de jeu est fascinant parce que il y a des questions d'adaptation, il y a des questions de réception, il y a des questions de production. C'est peut-être pas un game changer en termes de l'univers MCU parce que tout le monde a l'air d'avoir très bien intériorisé le fait que ça sera pas The Leftovers version super-héroïque, mais on n'a pas le choix un peu d'accepter le fait que nous, on va faire un bout de chemin sur cette œuvre-là. Quand je dis nous, je parle l'étude de la culture populaire, on a du matériel là, gérer, on en a beaucoup.
À ce sujet-là, j'ai envie quand même d'y aller d'une forme de précaution. Là. Oui, on a beaucoup de choses à faire face à un objet comme Infinity War, mais je crois qu'il faut aussi se méfier et ne pas tomber dans le piège en fait, que tant Infinity War par tout ce qu'il nous propose, puis en quelque sorte par sa propre existence. C'est-à-dire que à force d'analyser tout ce qui est méta-narratif dans Infinity War ou dans les MCU, j'ai l'impression, ou en tout cas, j'ai peur que ce qu'on finisse par faire à moyen ou à long terme, c'est de le renforcer. C'est de donner plus d'autorité à ces structures-là, méta-narratives, en les décrivant, en les faisant fonctionner sur un point de vue scientifique, un point tel que comme ça va les légitimer. Ma méfiance par rapport à ça, c'est qu'on le voit bien, ce que ça fait au niveau, les contraintes que ça crée au niveau artistique, au niveau esthétique, ça crée des univers qui sont de plus en plus homogénéisés. Ouais. J'ai absolument rien contre les tie-in puis contre les crossovers, au contraire, j'adore ça. Mais j'aime en même temps, pour moi, les meilleurs crossovers possibles sont des crossovers qui sont capables de rassembler dans une forme de réunification plusieurs individualités, c'est-à-dire plusieurs styles, plusieurs trames narratives, plusieurs enjeux qui sont capables de faire des tensions intéressantes.
Ouais.
Alors que, tu sais, probablement que la tension la plus intéressante d'Infinity War qui n'a pas été résolue, puis là, bon, les gens diront, ouais, mais ça c'est pour la deuxième partie, c'est la tension entre Iron Man puis Captain America. Qui est complètement évacué du film, puis vraiment là, crissé en dessous du tapis, là, parce que je veux dire, ils font rien avec. Ouais. De la même manière qu'ils font rien avec Captain America, parce que Captain America, rendu à ce point-là, dans sa trame narrative, il ne peut qu'incarner ça. Il a enlevé son bouclier, il a enlevé son drapeau américain sur son chest. Il peut juste incarner cette désillusion-là face au patriotisme, face aux Avengers ou à Tony Stark. Puis c'est très dommage de voir ce personnage-là, tu sais, comme t'sais, coincé dans un cul-de-sac pendant tout le film. T'es comme, ok, tu sais, je suis sûr que Chris Evans, il aurait bien le goût d'avoir des bonnes scènes parce que c'est un bon acteur, puis tu sais, de faire de quoi, puis il a juste une barbe. Là.
Puis c'est le First Avenger aussi, tu sais. Oui, tu t'attends à ce que, comme un événement qui est supposé réunir tout le monde, que ces personnages-là, ils soient présents, puis qu'il y ait une vraie présence.
Oui, absolument.
Pour ça que. Pour moi, la question que tu as posée tantôt, Megan, c'est est-ce que le pari est réussi? Moi, pour moi, il n'est pas réussi parce que c'est un événement qui était supposé réunir tout le monde. C'est un événement galactique, unique dans l'histoire du cinéma. Mais finalement, c'est comme à moitié... La moitié des personnages sont vraiment présents. Il y a une belle présence. Hein? Il y a comme, je bâche depuis une demi-heure sur le film, mais j'ai beaucoup aimé... un des plaisirs du film, c'était de voir ces personnages-là se rencontrer puis interagir ensemble. Puis il y avait, tu sais, Spider-Man, Doctor Strange, il y avait des beaux moments. Mais après ça, t'en as d'autres qui punch-in. Fait comme, hey, c'est le temps que je me batte contre mon CGI pendant deux minutes, puis bye.
Mais en même temps, je trouve que une des choses que j'ai retiré de plus agréable par rapport au film, c'est le jeu d'échelle. Premièrement, c'est comme la
grande échelle.
Le jeu d'échelle dedans, les of scale, pas serpent et.
Oh oui.
mais c'est ça, en sortant du film, une des choses qui m'avait le plus frappé, c'est la direction photo. L'idée de comment est-ce qu'on était capable de prendre les esthétiques, par exemple, de Guardians of the Galaxy, l'esthétique propre à Captain America, puis de garder une espèce de le doré de l'univers de Thor, le mauve et vert de l'univers de Guardians of the Galaxy, puis d'en faire des couleurs qui se rencontrent dans le film. Mais l'autre truc qui, à mon avis, n'a pas été souligné à ce point-là, mais qui mérite de l'être, c'est que si je prends par exemple le film de Doctor Strange, t'sais, Doctor Strange, quand tu regardes le film, toutes les personnes qui se battent dans ce film-là sont à échelle égale. Donc, on est en train de se battre dans le domaine de la magie. Mais quand tu prends le Sorcerer Supreme et tu le mets dans l'MCU général, ben là, il est beaucoup plus puissant qu'on aurait pu le concevoir. Mm-hmm. Il faut la même chose avec Thor. Thor, chez les Asgardiens, a un certain niveau de puissance, mais là, tu le mets à côté de Captain America. Puis ça aussi, ça peut alimenter cette tension-là. Parce qu'à côté, c'est un dieu. C'est un dieu. On peut le dire aussi souvent qu'on veut dans les films de Thor. Tant qu'il va se mesurer à son peuple, on ne verra pas l'ampleur de ce que ça veut dire une divinité. Mais dès que tu le mets sur un chantier de bataille à Wakanda, ben là, tu prends la grandiosité du personnage. J'ai beaucoup aimé ce jeu d'échelle-là dans le film. De faire, il y a les bit players, puis il y a les plus grands que nature. Mm-hmm. Chose qu'on fait, ben en fait, qu'on fait très bien avec des personnages comme Doctor Strange et comme Thor, mais qu'on a beaucoup de difficultés à faire avec un personnage comme Vision, qui est supposé être hyper puissant, mais qu'on est continuellement en train de museler, de faire comme, oh non, on peut pas. Puis c'est logique dans la... Tu sais, je veux dire, c'est cohérent dans la logique interne des forces des Avengers. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé que il y avait quelque chose à... C'est ça, ça replaçait une espèce de macro par rapport à l'univers que je trouvais qui faisait du bien et qui était seulement possible à travers ce gros crossover-là. Fait que, ouais.
Mais l'intention est là. C'est clair que l'intention est là, au même titre que l'intention est là de réutiliser la direction photo des différentes franchises. Mais c'est pas non plus quelque chose qui marche tant que ça au niveau esthétique, je trouve. Ou en tout cas, je veux dire, au niveau formel en général dans le film, parce que, tu sais, par exemple, tu parles de jeux d'échelle, c'est vrai qu'il y a des jeux d'échelle. En même temps, ils sont, je veux dire, c'est tout naturel, tu sais. Je veux dire, Black Widow sur un champ de bataille, tu sais, comment tu veux la filmer? Tu peux juste la filmer en plan moyen en train de taper sur des gens avec ses poings, tu sais. Thor, qu'est-ce que tu peux faire? Je veux dire, c'est des trucs, tu sais, un peu qui coulent de source, puis qui sont pas... C'est pas comme si... Ce que j'apprécie énormément de ce que Whedon a fait avec les deux premiers Avengers, c'est qu'il y avait des moments où ils travaillaient en équipe. Ouais. T'avais vraiment des moments épiques qui étaient pensés comme des grandes chorégraphies. C'est un CGI fest, mais peu importe. Je veux dire, comme des espèces de grandes chorégraphies. T'as des plans séquences comme ça dans le premier puis dans le deuxième Avengers, où là, les différents personnages, à travers leur pouvoir, vont se lancer la balle, puis vont, par exemple, Iron Man va comme tirer de son rayon sur le shield de Captain America, qui vont s'en servir pour faire une déflexion. Puis des espèces d'effets comme ça, domino, qui se créent entre les différents personnages, puis qui renvoient là vraiment à la bande dessinée. C'est-à-dire qu'un des plaisirs de la bande dessinée, c'est de voir différents pouvoirs graphiques qui sont concrètement juste des manières différentes de dessiner ou de faire apparaître des choses sur une page. Puis là, c'est de mélanger ça, puis de voir à travers cette alchimie ce qui va en ressortir, puis où on peut aller avec ces personnages-là. Alors que là, la mise en scène, parce qu'elle est très télévisuelle, très expéditive, elle concentre le destin des personnages à l'intérieur de petits micro-récits là, dans la bataille de Wakanda, où dans le fond, tu sais, il y a peu de choses qui concernent à la fois, mettons, je sais pas, Falcon et Thor. Tu sais, il n'y a pas d'interaction entre les deux personnages. Alors que c'est ça, chez Whedon, il y avait une espèce de chorégraphie, puis c'est à travers cette mise en chorégraphie des combats que là, on était comme, OK, c'est une équipe, tu sais. Mais en même temps, j'ai un peu le goût de dire que c'est un peu la finale pleine d'amertume de Age of Ultron, hein, qui se termine, on s'en rappelle, avec Steve Rogers qui s'adresse aux gens, puis qui dit Avengers, puis là, on voit juste prononcer un A, puis là, on s'attend bien à ce qu'ils disent Avengers Assemble, qui est le tagline d'Avengers depuis le début, et qui n'a encore été jamais prononcé au cinéma. Hein. Pour moi, c'est, je veux dire, comment dire, à partir de ce moment-là, à partir du départ de Whedon, la MCU a un peu à peu commencé à dégringoler, puis à se déconstruire, puis à la limite à survivre à l'intérieur de main créateurs qui avaient assez de personnalité, comme James Gunn, comme Ryan Coogler, ou Taika Waititi, qui ont vraiment créé leurs univers en disant, ben moi, je fais mon film de Thor, il va être comme ça, il va être punk, puis 80s, puis tout. Mais à part ça, l'unité d'ensemble, qui était celle maintenue par Whedon depuis des années, depuis le tout début, en fait, cette unité d'ensemble, là, pour moi, elle s'est vraiment dissipée dans un projet qui était beaucoup plus un projet de marketing aujourd'hui. qu'autre chose, qu'un vrai projet narratif, en fait.
C'est vrai, hein?
Puis je suis certain, je veux dire, je peux pas être certain de ça, c'est sûr, mais c'est pas on le sait, Whedon s'est vraiment engueulé avec la production, avec Kevin Feige, puis avec la production de Marvel Studios pendant le tournage de Age of Ultron. Puis il y a une espèce d'amertume, justement, à la fin d'Age of Ultron, je trouve qu'on ressent, puis qu'on voit surtout dans cette dernière ligne, qui me semble, pour moi en tout cas, être un clin d'œil de Whedon au spectateur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine dans ce film-là. Il y a quelque chose qui se termine parce que c'est vraiment après Age of Ultron que plein de choses commencent à partir en couille, je trouve, dans la structuration sérielle de Marvel Cinematic Universe.
Mm-hmm. Et là, au final, c'est parce que je trouve qu'il y a quand même... Il y a un drôle de niveau de conversation qu'on a actuellement parce que c'est... avec une grande part d'érudition, on parle d'une espèce de façon de voir un objet de la culture populaire comme... On a arrêté de parler du film, on commence à parler de l'entreprise. Puis on commence à parler de comment est-ce que les gens... Ben, c'est ça, c'est qu'en même temps, autant qu'il y a de l'érudition, j'ai l'impression que c'est de la discussion publique, ça a remplacé... Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Ça a remplacé le water cooler conversation. Il y a plus de conversations sur les enjeux, la structure, le...
Mais c'est un peu ce que le sujet de ces films-là est devenu aussi.
C'est exact. Ça?
C'est ça.
Donc, est-ce que...
Ils mettent en scène leur propre sérialité, ils mettent scène leur propre structure. Et puis ils la vendent, puis je veux dire, tout ça, tout comme, au même titre que, je veux dire, les pierres incarnent, les Infinity Stones incarnent le principe de sérialité, puis de crossover, puis de tie-in, puis whatever. Je veux dire, tous ces éléments-là sont constamment mis en scène par Marvel Studios, c'est ce qui fait leur force, puis en même temps, c'est ce qui fait qu'ils occupent plus d'espace médiatique. Tu sais, je reviens souvent avec l'espace médiatique, mais Marvel Studios, je veux dire, plus il y a d'articles écrits à l'année longue sur Marvel Studios, peu importe le sujet, plus Marvel Studios gagne. Parce que c'est comme ça qu'ils font en sorte de vendre autant de billets chaque fois qu'ils sortent un nouveau film. C'est d'occuper l'espace public.
Oui, et d'occuper les conversations aussi.
Exactement.
C'est ça. Puis les conversations deviennent de plus en plus érudites.
Veux pas. Puis veut pas, on est obligé de parler des entreprises parce que les gens s'intéressent à ça, veulent prédire ce qui s'en vient, veulent se demander justement qu'est-ce que Captain Marvel va venir faire là-dedans. Puis tout le monde est impliqué dans cette conversation-là parce que justement les clés nous sont données. Parce qu'on a des scènes post-génériques depuis 10 ans qui nous disent « Ok, ben là, vous aurez de quoi jaser durant un an en attendant le prochain film. » Ce qui est correct, c'est le fun.
Oui,
là,
c'est ça.
Mais à la longue, ce que ça a créé, c'est cette espèce d'écosystème-là où, dans le fond, on parle pas vraiment des récits. On parle de nos attentes et du fait que nos attentes sont exaucées ou pas, ou en tout cas...
Mais la force, c'est que le vrai récit, c'est moins le film en lui-même que toute l'interaction de la communauté puis des conversations autour. C'est le but. Puis je pense que le plaisir que la plupart des gens ressentent, c'est moins juste d'aller voir le film que d'en discuter.
Complètement.
Puis je pense que c'est ce balancement-là qui fait que... En fait, qui définit le Marvel Cinematic, le MCU.
Puis le marketing est aussi devenu pratiquement une partie de ce storytelling-là. C'est impossible de parler de ces films-là sans parler des films qui s'en viennent, sans parler de... Puis à chaque semaine, il y a comme une annonce ou il y a comme une réaction ou il y a comme une rumeur. Puis finalement, c'est un peu, que ce soit volontaire ou pas, c'est devenu une stratégie de comme... Tout ça fait partie de la conversation. Tout ça fait partie de l'univers. Ouais. La publicité, le marketing, la stratégie, le casting, les acteurs.
C'est la convergence de Jenkins. Là. C'est comme ça qu'on consomme la culture populaire aujourd'hui. Puis je pense que même si c'est une stratégie marketing de la part des créateurs, bien, ça reste, c'est comme ça que la plupart des gens qui consomment la culture populaire, c'est comme ça qu'on a notre fun. C'est ce qui est intrinsèque maintenant. Puis je pense qu'il faut pas nécessairement essayer de penser le MCU dans les carcans de consommation plus anciens, là, mais il faut penser ça à partir de la convergence, à partir du fait qu'il y a des Lego, il y a des articles, il y a des produits dérivés, il y a Reddit, il y a toutes ces affaires-là.
Mais en même temps, totalement, puis ce qui me fait peur dans cette situation-là, c'est qu'on va vraiment vers une homogénéisation assez folle de la culture populaire, tu sais. qui je veux dire, c'est très très beige Infinity War par rapport à je veux dire c'est puis là c'est peut-être qu'on pourrait parler un petit peu pour revenir sur la question de l'adaptation, mais quand même les comic books desquels ces films là sont adaptés sont des trucs créés par Kirby, par Starlin, par John Byrne, je veux dire des œuvres qui étaient vraiment qui étaient assez exceptionnelles sur le point graphique, sur le plan graphique, tu sais, qui ont amené énormément d'innovation dans le domaine de la bande dessinée, qui ont essayé beaucoup de choses, qui ont défoncé plein de portes au niveau de la représentation de l'abstraction, des pouvoirs, des jeux d'échelle dont tu parlais, je dirais des choses, puis tu le sais, c'est formidable qui se font depuis des décennies en comic book, puis quand on arrive au cinéma, parce qu'on est avec une machine qui coûte un demi-milliard à produire pour en rapporter 2,5 milliards, puis que c'est des choses complètement faramineuses, bon, on est vraiment face à une situation où on est comme... Ben, en quelque part, c'est sûr que si tu veux faire un film puis qu'il rapporte... mettons, tu fais un film puis que ton objectif, c'est qu'il rapporte 2,5 milliards au box-office, ben, j'ai vraiment le goût de dire que c'est impossible que ton film soit réussi sur le plan artistique, ou en tout cas, qu'il soit novateur, parce qu'il va nécessairement se centraliser sur, en fait, une espèce de centre le plus commun, le plus médian de ce que, tu sais, globalement, tous les gens attendent d'un film. Puis globalement, on est globalement un peu stupide dans nos attentes artistiques, c'est sûr. Mmh. On veut pas de risque, on veut pas, je veux dire, personne veut s'entendre sur quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que ça va vraiment être porté sur le truc le moins frileux, je veux dire, le plus frileux possible. Tu sais, mon exemple tantôt de Captain America qui serait plus pertinent aujourd'hui que jamais. Ouais. Et là-dessus, jamais Disney produirait un film de Captain America qui oserait faire un truc ou avoir un discours ou un sous-discours qui serait anti-trumpien. Jamais.
Non, il se débarrasserait de... En fait, il se mettrait à dos un si grand public.
En principe, mais il me semble que c'est bien à ça que sert ce maudit personnage-là, c'est de reprendre les vieilles valeurs de l'Amérique, de lui mettre d'en face, puis de dire « deal with it ».
Oui, t'sais? Mais en même temps, c'est drôle, en préparation de l'émission, Megan, elle a schématisé un peu l'univers de Marvel. Dans tout, parce que bon, la question qu'avait en introduction, est-ce un transmédia soulève beaucoup de points, puis peut être interprété plusieurs points de vue. Mais tu veux-tu le décrire?
Ouais, mais c'est ça. Comme je suis en train d'essayer de me réveiller ce matin, puis tu me poses la question, puis ça m'a comme un peu pris de court. Je savais pas trop comment répondre à ça, parce que techniquement, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est t'as le MCU qui est au cinéma, d'où son nom, et le MCU interagit comme les films interagissent entre eux, mais ne vont jamais interagir avec les autres éléments de la franchise. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu frileuse à l'idée de parler de franchise transmédiatique, parce que c'est vraiment juste one way comme façon de construire une histoire, parce que transmédia, c'est supposé circuler puis peut-être revenir éventuellement. C'est le cinéma fait référence aux jeux et les jeux font référence au cinéma et vice-versa. Là. Donc, il y a comme une espèce de... C'est sûr qu'il y a toujours une hiérarchisation. Le cinéma a toujours une plus grande place hégémonique dans l'espace médiatique et compagnie. Mais c'est habituellement, il y a une circulation qui est plus égalitaire. Mais là, c'est vraiment construit justement pour faire le plus d'argent possible. Donc, on a le cinéma qui interagit entre eux. Si on est intéressé à aller plus loin, on va dans les séries télé, les Netflix et compagnie. Et si on est encore plus intéressé, après, on peut aller dans les comic books puis aller lire les adaptations. Fait que c'est vraiment comme une grosse pyramide là, au trône en haut, le cinéma, le MCU. Puis après, on peut naviguer là-dedans, mais il n'y a jamais les films vont aller faire référence à l'extérieur. Mais,
tout à fait, c'est vraiment une pyramide. Puis pyramide, c'est le mot-clé, parce que justement, c'est cette structure-là, elle reprend justement le schéma capitalistique qui fait en sorte que... Non, mais qui fait en sorte que... Ce qui m'énerve, par exemple, c'est si je lis un comic book de Marvel, puis que je vois, genre, un personnage là, qui a changé d'apparence du jour au lendemain, puis que là, tout à coup, il, mettons, Thor, il ressemble à Chris Hemsworth. OK? Puis c'est la première fois qu'il ressemble... Oui, ça arrive.
C'est le même principe que les couvertures de livres avec le poster du film.
Oui, exactement, oui, c'est ça. Tu as acheté Les Misérables et c'était pogné avec l'adaptation hollywoodienne. C'est chiant un peu. Tu cherches des vieilles éditions, mais...
la pyramide, mais, le capitalisme. Oui,
c'est ça. Non, mais c'est parce que... c'est fâchant parce que... On est face, donc, à, je sais pas, 24... Oui, je m'en allais, désolé. C'est ça. Avec les comic books, par exemple, on est face à des créateurs qui vont essayer des choses. Par exemple, Tom King essaie de quoi dans Vision, dans sa série, ouais. C'est une mini-série, c'est comme Vision en banlieue, il fait un truc. C'est un truc qu'on verrait jamais au cinéma. C'est un truc super spécialisé, qui s'adresse à un public, un lectorat de comic books, qui sont comme, ben là, vous, vous avez des attentes, on va essayer de contrevenir aux attentes de lecteurs de comic books, parce que vous êtes tannés d'en lire, c'est tout le temps la même chose chaque semaine, etc. Puis là, c'est comme si, tu sais, les meilleures idées, ou en tout cas les idées les plus utiles hein, de ce bassin d'auteurs qui font des comic books. Un comic book, ça coûte pas cher à produire. Ça doit comme produire un issue, ça doit coûter, je sais pas, 20 000 piastres à Marvel en produire un avant l'impression. Donc, ils prennent les meilleures idées de ça, comme par exemple une idée d'Infinity de Jonathan Hickman qui est sortie en 2013. Ils vont après ça l'amener au cinéma. Puis après, donc, ils vont comme construire cette espèce une espèce d'homogénéisation hein, transmédiatique qui se produit donc au sommet de cette pyramide-là à partir du MCU, puis qui va donc comme glaner hein, les meilleurs éléments. Puis ça, je trouve que c'est assez ingrat hein, pour toutes les autres sphères médiatiques, qu'elles soient télévisuelles, netflixiennes ou comme Boukian, parce que c'est un peu comme si, ouais, mais tu sais, c'est pas assez bon, ça, c'est pas assez rassembleur.
C'est peut-être pas assez bon, mais c'est trop risqué.
Mais c'est ouais, ça aussi. Mais c'est ça, parce que je trouve c'est pas que dull, c'est ingrat. T'sais. T'sais, ben, vous prenez la figure de la pyramide. Moi, quand Megan me l'a décrit pour la première fois, je voyais ça comme une cellule. T'sais, dans le centre de la cellule, il y a le code le plus épuré, le plus concentrique. Dans la. Pardonnez-moi, ma biologie est vraiment loin, là, ça fait que je me rappelle plus comme la
zone.
Fait que
t'es en train de parler de comme le. Une sémiosphère, dans le fond.
Oui, fondamentalement, oui.
C'est ça, avec le centre qui est très, très figé, mais qui s'inspire aussi des marges qui changent, puis qui mutent, puis qui se transforment.
Exactement, puis à la frontière, t'es dans les wastelands, t'es dans le grand, tu sais, comme le... Puis c'est ça, à mon avis, je trouve que c'est pas si dommage comme dynamique, parce que tu peux toujours faire, OK, t'as aimé la MCU, ben va regarder un peu les téléséries, parce qu'ils sont un peu plus edgy. Mais, si tu veux the real stuff, là, il faut que tu ailles dans les Badlands. Là, il faut que tu ailles dans la frontière comme dans... je pense à toutes ces cités post-apocalyptiques que dans le centre, tout le monde est protégé, mais une fois que tu arrives...
Le Forbidden Zone.
Tu as le désert où, OK, il va y avoir des zombies en motocyclette, puis tu as la place qu'on ne sait même pas, là. Tu sais, comme le Black Zone qui est non cartographié, ben, le comic book devient la zone non cartographiée que c'est comme... le free-for-all d'idées, puis quand ça tente d'être dans le vrai truc, dans la vraie frontière, la confrontation des idées, les trucs progressistes, innovateur. Contre-culturels, innovateurs, ben, en même temps, juste dans la pure confrontation des idées, là, tu t'en vas dans Comic Book Land. Puis quand t'arrives dans Comic Book Land, ben, c'est ça, Captain America se traite de nazi, Vision décime une banlieue par accident. T'sais, c'est vraiment là tu te rends dans
le... Puis le problème, c'est que là, t'es pris à errer dans ton wasteland avec les autres gens qui errent dans ton wasteland.
Moi, je l'adore, le wasteland.
Oui, non, mais moi aussi, sauf que, je veux dire, le MCU a un pouvoir d'attraction qui est sans précédent dans l'histoire du cinéma. Il pourrait faire à peu près n'importe quoi, puis les gens achèteraient des billets, puis iraient le voir. Fait que pourquoi, dans cet état des choses-là, ils s'en permettent pas un petit peu plus, là? Juste un peu plus au niveau de la prise de risque, au niveau de la scénarisation. Il y en a plein, là, des bons scénaristes à Hollywood, là. Ça manque pas, là. C'est vraiment... Il y a une espèce d'abolition de la prise de risque au nom, justement, de la profitabilité qui est assez tyrannique là, en ce moment.
Ben, c'est pas juste le MCU, c'est toutes les choses populaires.
Oui, complètement. Complètement. puis, tu sais, probablement parce que les films coûtent trop cher, probablement parce qu'un film qui floppe, ça coûte trop cher, justement, donc à un studio. Mais en même temps, c'est ça, je pense qu'il faudrait... En quelque part, faudrait revenir à une forme de blockbuster qui soit peut-être un petit peu plus... Je sais pas, tu as arrêté de faire des films à 300 millions. Ça se fait quand même un film à 80 millions. T'sais, Deadpool le prouve constamment. Puis ça fait quand même des bons films. Puis la prise de risque, elle paye autant. T'sais, Logan, c'est un film qui a marché au bout puis qui a pas coûté aussi cher. Là. Vraiment pas. C'est un film indépendant, là, toute proportion gardée par rapport à un blockbuster.
Ouais, puis tu sais, des films comme Thor Ragnarok, comme Black Panther, il y a comme une signature visuelle, il y a quelque chose. Puis c'est quoi la signature visuelle d'Infinity War? Puis il me semble que ça aurait été le moment de prendre un risque, parce que tout le monde va le voir, ton Chris de film. Tu sais, je veux dire, ça peut genre être une heure de Howard the Duck, ils vont aller le voir pareil, tu sais. Fait que, ben moi, plus, là.
Ouais, en
fait.
Exactement. Mais il y en a.
Là, tu parles, tu prêches pour ta parole.
C'est ça, les yeux, en fait.
Moi, j'attends juste qu'il fasse un film sur Howard the Duck, mais. Tout ça pour dire que effectivement, puis on est rendu loin, on s'est trop engagé pour venir à une logique de Deadpool, au moins genre dans le storytelling principal.
Ouais, non,
ça. On ne sait pas ce qu'ils vont faire si la transaction avec Fox passe, mais au moins, tu sais, il y a des films comme ça, comme qui sont des petits flashs, là, justement, de rafraîchissement comme Logan, comme Deadpool, puis peut-être aussi d'autres films dans le MCU. Mais effectivement, j'ai l'impression que des gros blocs dans le storytelling principal, ça va toujours être des trucs très, très safe.
Ouais, mais en même temps, avec justement Thor Ragnarok et Black Panther, on voit déjà un mouvement vers... Peut-être qu'éventuellement, ils vont les prendre les risques parce que là, c'est quand même bien installé. Puis déjà là, eux autres, l'idée d'une prise de risque, c'est comme un film de Captain Marvel avec un personnage féminin principal. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas le même genre risque.
Il a fallu Wonder Woman ramasse tout au box-office pour qu'il le fasse aussi.
Il attendait que quelqu'un d'autre prenne le risque.
Non, exact. Puis il reste à savoir comment le film va être fait, puis ce qu'il va véhiculer, puis les risques que le film lui-même va prendre. Si c'est un film générique, mais parce que c'est une femme, c'est une prise de risque, ben là, c'est débile. Là.
Ouais. On attend. Moi, j'attends encore mon film de Black Widow. Là.
Moi, j'attends mon film de Howard the Duck.
ça va s'en dire.
Ben, merci énormément. Vraiment, merci beaucoup pour l'épisode, la conversation. C'était extraordinaire de vous rassembler. Papa en stock assemble.
Ouais. Yeah!